Dernière lettre écrite par le soldat Henri Hilaire du 11e cuirassier. Les tranchées, à 21h, le 25 septembre 1918. Bien cher papa, bien cher maman, si ces quelques mots vous parviennent, ce sera que votre Riri ne sera plus. Je suis en ligne, ma lettre de ce matin a dû vous le dire. Nous allons attaquer. Nous sortons des tranchées à 2h30 demain matin. Encore quelques heures et nous bondirons sur l'ennemi. Ma dernière pensée aura été pour vous, mes chéris. Je sais que si cette lettre vous parvient, c'est fini pour vous, la joie, la gaieté, disparaîtront pour toujours de cette maisonnette où nous étions si bien. Mais courage, de là-haut, votre Riri veillera et attendra que la suprême réunion se fasse pour vous dire tout. Sachez qu'il vous a aimé et adoré. Ma lettre quotidienne a dû vous le prouver. Adieu donc, mon papa nous, adieu donc, ma mamanette, adieu à tous ceux que j'ai aimés. Votre Riri qui vous aime. À l'occasion du centenaire du début de la guerre de 1914-1918, l'émission Vendémiaire vous propose un hommage rendu aux victimes de cette guerre qui fut un véritable massacre de masse des travailleurs et des populations au profit des puissances d'argent, les mêmes que celles qui nous dominent toujours aujourd'hui. Nous vous proposons ces retours sonores sur ces années terribles, retours où il n'est pas question de célébrer le sacrifice mondial organisé de ces plus de 18 millions d'humains, dont plus de 10 millions de civils, ce à un moment où les suppôts du militarisme et de la finance se donnent un mal fou pour récupérer à leur profit cette évocation. Il ne faut pas, cette fois encore et sur ce sujet-là non plus, laisser le champ libre à leur propagande récupératrice. Retenons au moins cette phrase d'Anatole France, « On croit mourir pour la patrie et on meurt pour les industriels ». Notre émission de ce jour est consacrée aux dernières lettres de combattants de 14-18. Il y a plusieurs sortes de ces dernières lettres. D'abord, celles de hasard, c'est-à-dire les lettres écrites comme presque quotidiennement par beaucoup de poilus, et qui se trouvent être la dernière parce que le poilu a été tué juste après son expédition, alors qu'il ne le prévoyait pas du tout. Il y a aussi celles écrites presque en toute conscience par des gens qui, sachant ce qu'ils allaient devoir faire, ce jour-là, avaient tout lieu de penser qu'ils n'en reviendraient pas, donc ils prévenaient leurs proches en faisant leurs adieux. Et puis, il y a aussi toutes ces lettres écrites par avance, pour le cas où, et que les poilus gardaient dans leur sac ou dans leur capote, avec l'indication de faire parvenir la lettre à leurs proches après leur mort, des lettres testament en somme. Toutes méritent le respect parce que ces gens y ont laissé leur vie. Pour autant, ils ne méritent pas forcément qu'on approuve et partage leur vision des choses, souvent très empreinte du bourrage de crâne des militaires et des civils de l'arrière, qui conduisait ces gens, sans autre analyse politique de leur situation, à épouser les préceptes idéologiques dont on les avait imprégnés, autour des thèmes du sacrifice pour la patrie, de l'honneur, de la lutte contre la barbarie allemande, de la fierté de donner sa vie pour son pays, etc., etc. Toutes ces thématiques, vous allez les retrouver exposées au fil de ces lettres. Leur laisser les exprimer ici n'est pas une manière de les approuver, mais de rendre compte, en respectant leur sacrifice, de la réalité de ce qu'il en fut. Car il en fut ainsi, et, morts par bêtise ou par héroïsme, il reste qu'ils sont morts par la guerre, et que ceux qui les envoyaient se faire tuer se portaient et se portent toujours très bien, tout en tenant toujours les mêmes discours iniques appelant au sacrifice. Un homme dans la guerre a toujours compté moins qu'un fusil ou qu'une mitrailleuse. On le sait, on le comptabilise, mais on ne le dit pas. Alors, les destinées individuelles n'intéressent pas les militaires, et les soldats le ressentent ô combien. Y a-t-il une évolution dans le temps de la perception des choses, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918? Non, les thématiques comme les messages restent les mêmes. on lira aussi bien des victoires définitives annoncées en 1915 qu'en 1918, ce qui laisse assez pantelant sur l'absence de vision globale du conflit. En même temps, c'est bien compréhensible quand on pense au niveau d'isolement et d'informations mensongères dans lesquelles on tenait ces gens. Chacun prenait alors ses rêves pour des réalités. Écoutons donc ces mots de ceux-là qui ont plongé bien prématurément dans l'outre-tombe, entraînant le malheur de tous leurs proches dans ce désastre.
Avril 1912, ma femme, mon amour, un an s'est écoulé depuis ce mauvais jour où j'ai quitté ma terre. Je suis parti soldat, comme on dit maintenant. Je reviendrai te voir, d'abord de temps en temps, puis pour la vie entière. Ne pourrais venir sans doute avant l'été. Les voyages sont longs quand on les fait à pied. As-tu sarclé la vigne? Ne va pas la laisser manger par les chardons. Le voisin prêtera son cheval aux moissons. Écris-moi quelques lignes. Vers 1913, mon mari, mon amour, tu ne viens pas souvent, sans doute sont trop courts. Les congés qu'on te donne, mais je sais que c'est dur, 50 lieues marchant pour passer la semaine à travailler au champ. Alors je te pardonne. Les vieux disent qu'ici, cet hiver sera froid. Je ne sens pas la force de couper du bois. J'ai demandé au père, il en a fait assez pour aller en avril. Mais penses-tu vraiment, toi qui es à la ville, que nous aurons la guerre? Ma femme, mon amour, en automne au plus tard, je serai de retour pour fêter la victoire. Nous sommes les plus forts, couper le blé sans moi. La vache a fait le veau, attends que je sois là pour le vendre à la foire. Le père se fait vieux, le père est fatigué. Je couperai le bois, prends soin de sa santé. Je vais changer d'adresse. N'écris plus, attends-moi, ma femme, mon amour. En automne ou plus tard, je serai de retour pour fêter la tendresse. Vers 1915, mon mari, mon amour, le temps était trop long, je suis allé au bourg. Dans la vieille charrette, le veau était trop vieux, alors je l'ai vendu. Et j'ai vu le vieux Jacques et je lui ai rendu reste de nos dettes. Nous n'avons plus un sou, le père ne marche plus. Je me débrouillerai et je saurai de plus en plus être économe. Mais quand tu rentreras diriger ta maison, si nous n'avons plus rien, du moins nous ne devrons plus d'argent à personne. Avril 1916, ma femme, mon amour, tu es trop généreuse et tu voles au secours d'un voleur de misère. Bien plus riche que nous, donne-lui la moitié, rendre ce que l'on doit. Aujourd'hui, c'est jeter l'argent au cimetière. Dit que tout cela pourrait durer longtemps, la guerre se ferait encore pour 2 ans, peut-être 3 ans même. Il faut nous préparer à passer tout ce temps. Tu ne fais rien pour ça, je ne suis pas content. Ça ne fait rien, je t'aime. C'est terminé cette tranche de vie, ainsi c'est terminé sur du papier jauni cet échange de lettres que j'avais découvert au détour d'un été sous les tuiles enfuies d'une maison fanée au coin d'une fenêtre. Dites-moi donc pourquoi ça s'est fini si tôt. Dites-moi donc pourquoi au village d'en haut, repassant en voiture, je n'ai pas regardé le monument aux morts de peur d'y retrouver d'un ami jeune encore comme la signature.
« 28 février 1915. Ma tendre Jeannette, voilà quelque temps que je n'ai pas reçu de tes nouvelles, mais j'ose espérer qu'elles sont, comme les miennes, toujours bonnes. La température est un peu froide, il tombait un peu de neige au lever du jour, mais cela ne durera pas peut-être. C'est aujourd'hui dimanche. Les cloches tintaient délicieusement ce matin. Nonobstant le cliquetis des armes qui évoque le bruit des combats, elles n'en conservaient pas moins leur douce mélancolie et leur esprit évocateur. Leur mélodieuse voix, qui est celle de la famille, parlait à nos cœurs, et c'est par elle que vos inspirations et vos vœux me sont parvenus. Oui, la France se bat sans méchanceté, ni sans haine, et c'est pour cela qu'elle aura la victoire. Dans cet espoir, je t'embrasse éperdument, ma chérie, ainsi que mes chers enfants, si sages, et si beau. Henri Bonhomme. Dernière lettre de Henri Bonhomme, tué au combat. Lettre écrite par le caporal Robert Bertrand du 407e régiment d'infanterie, tué en Artois le 28 septembre 1915. Chers parents, quand vous recevrez cette carte, je ne serai plus de ce monde. Je l'écris quelques minutes avant l'attaque, et ce n'est pas sans émotion que je m'entretiens pour la dernière fois avec vous. J'ai chargé un fidèle ami de vous la faire parvenir. Il vous narrera aussi mes dernières heures de vie. Une recommandation. N'écrivez à personne pour vous renseigner à mon sujet. car on pourrait apprendre que c'est lui qui vous a annoncé ma mort, ce qui est formellement interdit. Bien chers parents, j'ai le cœur bien gros en songeant à tous les bienfaits dont vous m'avez comblé et qu'une vie trop courte m'a empêché de vous rendre. Je vous embrasse de tout mon cœur, chers aimés, et quand je serai là-haut, près de la chère maman, je veillerai sur vous comme elle veillait sur nous. Ne nous oubliez pas dans vos prières, ne vous laissez pas abattre par ce malheur, c'est la destinée. Faites comprendre à tous ceux qui vous parleront de moi que je n'ai fait que mon devoir en empêchant l'envahisseur de venir vous inquiéter. Je donne gaiement ma vie en songeant que c'est une façon pour moi de racheter tous les sacrifices que vous vous êtes imposés. Ne pleurez pas trop, mais songez à moi. Allons, le devoir m'appelle. J'y cours. Encore une fois, de gros baisers. Vive la France. Robert. Testament fait le 4 mai 1915 par le soldat Maurice Briot, qui est tombé le 9 juin 1915. Mes dernières volontés. J'espère que ce carnet tombera entre les mains d'un frère et qu'il le fera parvenir à ma femme à qui je le dédie. Je laisse à ma femme tous mes biens, propriétés bâties et non bâties. Je lui reconnais comme sa propriété personnelle tous les meubles, le linge et les effets qui ont été achetés avec son argent personnel et en communauté. Je lègue à ma filleule Renée Bernard la somme de 1 000 francs dû par mon oncle à moi. J'ai l'espoir que l'argent que je dois à mon père ne sera pas réclamé à ma femme. Je laisse le soin de payer mes dettes par ma femme sur ce que je lui laisse. Ma dernière pensée sera pour tous ceux qui me sont chers, pour ma femme d'abord, puis mon père et tous les miens que ma mort pourrait attrister. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal et je remercie ceux qui m'ont fait du bien. Je demande pardon à tous les miens pour toutes les peines que j'ai pu leur faire. Je veux que ma mort n'achève pas la vie de ma femme. Je veux qu'elle se remarie avec quelqu'un qui l'aime, comme je l'ai aimé, et qu'elle soit heureuse, à moins que, trop attristée de ma mort, elle consacre sa vie auprès de mon père, qui mérite beaucoup d'affection. Je tiendrai à ce que mon corps ou les débris de mon corps soient transportés dans le petit cimetière de Jartres, près de ceux qui me furent chers, et que l'on dépose sur ma tombe les fleurs que je préfère. Mais je tomberai peut-être entre les lignes où les rats et les corbeaux se disputeront mes dépouilles. Alors je serai enfoui dans la fosse commune. Je veux que l'on pense quelquefois à moi comme l'on pense à un ami qui voulait vivre et qui maudit cette guerre qui m'a fauché avant de connaître la vie en pleine santé et en pleine force.
Ayant obligé l'homme de la terre à quitter l'outil des labeurs féconds, pourquoi s'étonner du train militaire qui va chez la mort emplir ses wagons? Pourquoi franchement ne pas dire au monde ce que chaque jour j'ai mis notre cœur, le champ dévasté par la guerre immonde est un abattoir, plus qu'un champ d'honneur. Ayant obligé les hommes des villes à suivre au charnier l'homme des sillons, pourquoi mépriser les hordes serviles dont les étendards sont des guenillons? Pourquoi de grands mots, de formules creuses, travestir des faits qui nous font horreur? Le champ moissonné par les mitrailleuses est un abattoir, plus qu'un champ d'honneur. Ayant obligé l'artiste qui râle à laisser mourir son rêve chantant, pourquoi déplorer la chute brutale des temples bâtis par la foi d'antan. Pourquoi célébrer la grandeur du geste qui, dans l'autre camp, sème la terreur? Le chant qu'au vautour dispute la peste est un abattoir, plus qu'un chant d'honneur. Obligé des mains fraternelles à rougir de sang les fleurs du chemin. Pourquoi poudrer d'or les funèbres ailes couvrant plein azur le mensonge humain? Tant nouveau progrès, liberté, justice, miroir d'Histrion, hochet d'empereur, le chant couvre aux gueux leur vain sacrifice. Est un abattoir, plus qu'un chant d'honneur.
Lettre écrite par le caporal Armand Bell du 109e régiment d'infanterie, tué le 24 septembre 1915. Bien chers tous, c'est quelques heures avant le grand coup que je trace ces quelques lignes renfermant tout mon espoir et tout mon cœur. Un vague pressentiment me dit que, en même temps que beaucoup de mes camarades, je suis appelé à y rester, sur ce terrible plateau de Lorette, où je combats depuis le mois de mars. C'est ma destinée qui l'aura voulu. Aussi, ma dernière pensée est-elle pour vous, qui avez toujours été si dévoué pour moi, vous qui avez pris tant de peine, qui vous êtes tant privé pour me donner l'éducation que j'ai en ce moment. Aucun geste, aucune parole ne pourront vous remercier assez de tous les bienfaits dont vous m'avez comblé. Une reconnaissance éternelle. Voilà, malheureusement, tous les remerciements que je puis vous adresser, car au moment où vous recevrez cette lettre, je ne serai plus de ce monde. Grande sera votre douleur, mais vous aurez une consolation. Votre fils sera mort en brave. Il sera digne de vous. Vous pourrez parler de lui, car il aura mérité de la patrie. Quelle plus douce consolation, en des temps si cruels, où la vie d'un homme ne tient à rien. Adieu, bien chers tous. Que mon sacrifice soit pour vous un porte-bonheur. Ayez confiance comme je l'ai en ce moment, et que cette horde de sauvages soit bientôt acculée à la défaite. Tous mes souhaits, tout mon cœur sont enfermés dans cette lettre, à laquelle je joins mes plus ardents baisers. Votre malheureux fils, Armand. Dernière lettre écrite par le sous-lieutenant Gustave Veuillet du 23e régiment d'infanterie, tué le 26 août 1916 à Curlu dans la Somme. Ma chère maman, lorsque tu liras ces lignes, je me serai, comme tant d'autres, acquitté envers le pays de la dette sacrée. Et ce n'est certes que payer un juste prix l'honneur d'avoir porté le nom de Français en ces heures sublimes, en renonçant à certains rêves d'avenir. Depuis longtemps, j'avais fait le sacrifice de ma vie à la noble cause, la plus belle entre toutes, celle pour laquelle nous avons su souffrir, lutter et mourir. Elle en vaut la peine. que cette nouvelle te trouve forte et fière d'avoir donné un fils à la patrie. C'est là mon dernier vœu. Le cœur des mères est, je sais, bien sensible à de pareils coups. Mais je sais aussi que le cœur d'une Française les supporte vaillamment et tu étais la maman d'un bon Français. Comme j'ai sacrifié ma vie sur l'autel de la patrie, offre ton héroïque douleur à notre chère France et nous aurons tous deux bien mérité du pays. Songe que la mort est notre lot fatal et qu'il faut la bénir lorsqu'elle concourt à un tel but. Sois assuré que je l'ai affronté sans crainte, mon seul souci étant de faire dignement mon devoir. Et je meurs sans remords, ma tâche consciencieusement accomplie, avec la joie sereine de songer que mon souvenir survivra parmi celui des braves tombés au champ d'honneur pour que l'humanité fût faite de plus de justice. Je ne regrette rien de la vie, car j'ai vécu des heures uniques et sublimes, exempte de tout calcul et d'égoïsme, et je ferme les yeux sur une vision presque trop belle pour être humaine. J'ai vu tomber à mes côtés, en un effroyable pêle-mêle, mais d'un geste héroïque, des heureux de la vie et des pauvres diables, de puissants cerveaux et de rudes primitifs, qui, après avoir souffert de longs mois, fait abstraction de tout, sacrifié fortune, plaisir, famille, ont donné leur vie pour un idéal d'amour, de justice et de liberté. Si tu savais comme de tels exemples aident à mourir, j'emporte dans la tombe le radieux espoir d'une France grande, forte et respectée, avec la pensée que j'aurai modestement contribué à l'œuvre de rénovation. Ma dernière pensée s'envole vers toi, chère petite maman, et auprès d'Henri que j'ai beaucoup aimé, dans la communion de pensée où nous réunissait l'amour profond de notre belle France. Ne pleurez pas ma mort, ce serait faire injure à ma mémoire. Placez mon portrait en tenue à la place d'honneur du salon et ne l'encadrez pas de crêpes, car je veux être uniquement un souvenir de gloire et non de deuil. Ceux qui sont tombés en soldats ont droit que l'on ne pleure pas leur trépas puisqu'ils l'ont librement consenti et jugé utile. Adieu. Et vivez pour transmettre mon exemple à ceux qui auront la gloire d'achever la tâche. Gustave.
Regarde bien ce monument dédié aux morts de cette guerre. Voilà ce qui reste de 20 ans. 20 ans d'amour, 20 ans de peine, 20 ans de peur, 20 ans d'espoir, de temps de mer. De temps en temps, un général vient saluer le piédestal d'un air bien triste. Et les anciens d'un pas martial viennent saluer le général et les lampistes. Et dans la pluie et dans le vent, le ministre ou son remplaçant nous dit les monstres qu'il étreint. Il y a des soldats et leurs fusils avec guétron et tout le phobie et qui attendent la fin. Font 3 petits tours et puis s'en vont comme un troupeau de petits moutons obéissants. Le général s'en va aussi avec son stick et son képi et ses lieutenants. Débarrassé de la corvée, chacun s'en va dans sa chambrée ou sa maison. Revoir l'amour ou les copains et retrouver son petit train-train, ses ambitions. Tout ça sans rime ni raison, simplement parce que la chanson se chante comme ça. Mais les pauvres types qui sont restés quelque part au fond d'une tranchée ne reviendront pas. Demain, quand le roi de l'acier verra ses recettes baisser, on recommencera. Et beaux discours parlant de paix n'y feront rien, car c'est après que l'on comprendra. les feuilles mortes tournent et roulent autour du monument solitaire. Et la pluie lave les fleurs et la pierre. Un oiseau tout seul sautille sur le gazon. Et la planète tourne en rond.
Lettre écrite par Jean-Marie Le Guen pour annoncer à sa mère la mort de son frère quelques jours avant que lui-même ne soit tué. En campagne, le 7 octobre 1915. Ma chère mère, vous savez sans doute maintenant la triste nouvelle, puisque j'avais écrit à tonton Louis pour lui demander d'aller vous annoncer cette nouvelle qui a dû vous fendre le cœur à tous. J'ai trouvé qu'il valait mieux ainsi que de vous écrire directement. Vous auriez ainsi du moins quelqu'un pour partager votre douleur, et la douleur partagée en commun se supporte plus facilement. Mon pauvre frère a été tué le dimanche 3 octobre. La veille, j'avais eu de ses nouvelles par un camarade qui lui avait parlé, et il était toujours solide et confiant. Dimanche au soir, on est venu m'avertir qu'il avait été blessé grièvement. Je suis parti aussitôt pour aller le voir. Mais en route, on m'a appris qu'il avait été tué sur le coup. C'est Marc Gorek, de Côte Crène, qui se trouvait à ses côtés, qui m'a donné les détails de sa mort. Un autre camarade et lui s'étaient creusé un gourbi pour pouvoir se mettre à l'abri et se reposer un peu. Et il y avait à peine une demi-heure qu'ils y étaient étendus, qu'un obus est tombé en plein sur leur abri et les a ensevelis. Marc et les autres camarades qui se trouvaient à côté se sont empressés de les dégager, mais 10 minutes plus tard, quand ils ont réussi à les dégager, il était trop tard. Ils étaient morts asphyxiés. Yves était couché sur le côté, les bras croisés sur la poitrine, les yeux fermés, sans aucune blessure et nullement défiguré. Ils avaient été surpris dans leur sommeil et avaient été étouffés sur le coup. Il est du moins mort sans souffrir et n'aura pas eu le sort de beaucoup d'autres qui, blessés, ont dû rester 3 ou 4 jours sur le champ de bataille et mourir ensuite. Quand je suis arrivé là-bas, il était déjà enterré dans une tombe, tout seul, et non comme beaucoup d'autres qui sont enterrés dans le même trou. J'ai fait une croix sur laquelle j'ai fait inscrire son nom, sa compagnie, son régiment et la date de sa mort. D'un côté, en peinture, et de l'autre côté, son nom gravé avec une pointe rougie au feu. Il est enterré dans un petit ravin à 2 kilomètres environ au nord de Perthes, à droite de la route qui va de Perthes à Tahure. Prenez bien note de ces renseignements, vous pourrez ainsi le retrouver si je ne revenais pas moi-même et faire transporter son corps pour qu'il repose au milieu de la famille. Faites dire un grand service pour lui sans attendre que l'acte de décès vous arrive, car cela pourrait mettre du temps, surtout maintenant qu'il y en aura tant à établir. Ce n'est pas qu'il ait besoin de prière, car il est tombé un jour de victoire en faisant son devoir, et il repose dans une terre reconquise aux Allemands par son régiment, et où ils ne mettront jamais plus les pieds. Et l'aumônier nous a répété bien des fois qu'il n'y a aucun doute à avoir sur le salut de ceux qui tombent en faisant leur devoir. À qui donc serait-il le paradis, sinon à ceux-là? Mais, et c'est surtout ce que je tiens à dire à mes frères et à mes sœurs, nous ne pourrons jamais assez faire pour honorer la mémoire de celui qui nous a gagné du pain et qui était si bon pour nous tous. Je voudrais que, dès maintenant, vous fassiez faire une belle tombe, ou du moins une belle croix, en sa mémoire parmi la famille, où on pourra le mettre un jour. J'ai reçu hier une carte de tonton Jean, qui me donnait sa nouvelle adresse. Je lui ai écrit aussitôt pour lui annoncer à lui aussi la triste nouvelle. Il trouvera cela bien dur aussi, car comme moi, il est là-bas tout seul, sans personne pour partager sa peine. Vous aussi, vous aurez ce coup-là bien dur, et rien ne pourra jamais vous consoler de la perte que nous venons de faire. Il nous reste cependant une consolation, c'est de penser qu'il pourra un jour, quand cette terrible guerre sera finie, dormir son dernier sommeil au pays natal, et que sur sa tombe nous pourrons aller lui dire que nous ne l'oublierons jamais. C'est la volonté de Dieu qui l'a rappelé à lui. Du haut du ciel, il prie maintenant pour ceux qui étaient sur la terre l'objet de ses préoccupations, et pour ses camarades qui combattent toujours, car ce sont les vivants qui ont besoin de prière. Priez pour nous tous, et pour que cette terrible guerre finisse un jour. Votre fils dévoué qui vous embrasse, pour lui et pour son frère. Jean-Marie. Dernière lettre, datée du 21 octobre 1914, du soldat de Latigny, du 301e régiment d'infanterie, mort au combat. Mes chers parents, enfin, j'ai sur moi vos deux photographies. Elles me sont arrivées ce matin et ont rempli mon cœur de joie et mes yeux de larmes. J'aurai ainsi, toutes les fois que je le pourrai, devant moi mes bons parents que j'aime tant, et un coin du cadre où s'est déroulé le meilleur de ma vie, le jardin de Brézolles, les fenêtres du cabinet de papa et celles de votre chambre à coucher. Je ne crois pas qu'un moment m'ait jamais fait plus grand plaisir. Je vous écris de bonne heure ce matin, car il faut absolument que je vous écrive aujourd'hui. Voici pourquoi. Nous sommes en toute première ligne. À 200 mètres environ, nous devinons les tranchées allemandes. Le général croit savoir que certaines de ces tranchées sont abandonnées. Il faut s'en rendre compte. Des hommes de bonne volonté ont été demandés pour cette mission assez périlleuse, mais très délicate. Deux se sont présentés, dont moi. Prudemment et lentement, avançant à plat ventre dans une marche rampante, que nous faciliteront les gros arbres de la forêt dans laquelle nous sommes, nous tâcherons d'aller jusqu'à ces tranchées, dont l'emplacement approximatif nous a été indiqué. Si nous sommes reçus à coups de fusil, c'est que l'ennemi n'aura pas déguerpi, et il faudra revenir si nous ne sommes pas atteints. Si nous allons jusqu'au bout, le renseignement sera précieux, et j'aurai rendu ainsi quelques services. Il est 10h15. Un capitaine d'artillerie vient d'arriver à nos tranchées pour causer avec nous. L'artillerie va tâcher de nous faciliter l'exécution de notre mission. Son tir cessera à 12h30 et nous partirons à 13h15, suivi du regard, certes avec anxiété, par nos camarades et nos officiers. Et maintenant, ne me reprochez pas de m'être offert pour cette petite expédition. Le devoir est différent pour chacun. J'estime que le mien me commande cette conduite. Avant de partir, je remettrai cette lettre à un ami. Si elle vous arrive, sans autre renseignement sur mon équipée, c'est que j'y serai resté. Et maintenant, je vais manger une bouchée. 1h10. L'heure du départ est sonnée. Je viens de regarder encore vos photographies et de les embrasser. Et maintenant, je pars confiant et résolu. Lettre écrite par le sergent Maurice Ninoret du 123e régiment d'infanterie, tué le 7 mai 1916. 4 mai 1916. Chers amis, ma lettre aujourd'hui a un caractère spécial. Je vous l'écris du fort de Hesse, où 9e et 10e sommes arrivés cette nuit. Même vue à 10 kilomètres, l'impression colossale de la lutte qui se déchaîne devant Verdun ne peut être comparée à l'effroyable réalité. Pauvre 123e, d'ici à 8 jours, il sera bien maigre. Hier soir seulement, pour faire la relève sur les pentes sud de Douaumont, au cours de la traversée du bois de la Cayette, ou plutôt de ce qui le fut, le 10e bataillon a beaucoup souffert. Qu'il me suffise de vous dire que le lieutenant Véron a été tué, le capitaine Missot blessé de nouveau, etc., etc. Nous-mêmes avons eu à traverser pour nous rendre ici, à 1800 mètres de la première ligne, des rafales de leurs gros obus, et une chance réelle nous a seul permis d'en sortir indemne. Ce soir, nous allons renforcer le bataillon déjà en ligne et, malgré tout mon courage, qui n'est pas amoindri, j'appréhende cette galopade à la mort. Il faut les vivre, ces minutes, pour en comprendre toute la tragique angoisse. Tout sent le carnage par ici, l'air est empesté d'une odeur de charnier. Et pourtant, notre artillerie nous montre bien sa terrible puissance par son fracas ininterrompu. Nous ne resterons pas longtemps ici, car c'est le coin le plus terrible du secteur de Verdun. Tous les régiments qui s'y succèdent n'y font souvent pas plus de 8 jours. À ce moment, si je suis encore debout, je vous enverrai une carte. Soyez persuadés que ma façon de vous écrire ne m'est pas inspirée par un sentiment de crainte, mais bien parce que je suis logique avec moi-même, mais parce que dans cette fournaise, l'importance de mon devoir m'apparaît précise et que tous mes efforts tendront à l'accomplir pour notre chère France jusqu'à mon dernier soupir. Chers amis, je vous embrasse, permettez-moi ce bonheur. À bientôt et vive la France. M. Ninoret.
Plus les monts, les bois, la terre, beaux yeux de mes soldats qui n'aviez que 20 ans, qui êtes tombés en ce dernier printemps où plus que jamais douce apparut la lumière, et qui êtes tombés en ce dernier printemps où plus que jamais douce apparut la lumière. On n'osait plus songer au chant d'or que l'aube revêtait de sa gloire irisée. Seule la sombre guerre occupait la pensée quant au fond des hameaux votre mort. Seule la sombre guerre occupait la pensée quant au fond des hameaux on a pris votre mort. Depuis votre départ à l'angle de la glace, votre image attirait et le cœur et les yeux, et nul ne s'asseyait sur l'escabeau boiteux où tous les soirs près du foyer vous preniez place. Et nul ne s'asseyait sur l'escabeau boiteux où tous les soirs près du foyer vous preniez place. Hélas, où sont vos corps jeunes, puissants et fous? Où sont vos bras, vos mains et les gestes superbes? Qu'avec la grande faux vous faisiez dans les airs, hélas, la nuit immense est descendue sur vous. Hélas, la nuit immense est descendue sur vous. Parler de vous tristement tous les jours, et puis un soir de juin, on parla d'autre chose. On a parlé de vous tristement tous les jours, et puis un soir de juin, on parla d'autre chose.
Dernière lettre de Paul Monnier, soldat au 172e régiment d'infanterie, tué au Bois d'Ailly, près de Saint-Mihiel, le 21 octobre 1914. Le 11 octobre 1914, bien chers parents, je vous écris ces quelques mots pour vous envoyer de mes nouvelles. Je pense que cela vous fera plaisir. Je vais très bien pour le moment. Je vous promets qu'il ne fait pas chaud la nuit. Voilà 15 jours que nous sommes au milieu d'une grande forêt. Nous couchons dans des fossés à 200 mètres de l'ennemi. Nous sommes toujours prêts à faire feu. Hier soir, nous avons eu droit à une terrible attaque. Mais heureusement, je m'en suis tiré sain et sauf. Ah, les cochons, ils nous en font des maux. Il me tarde que ça soit fini, cette vie de sauvage. On est malheureux comme tout. On ne trouve rien encore. Heureusement que l'on a un peu à manger. Ma chère Constance, je te remercie de tes cartes que tu m'as envoyées. J'en conserve une précieusement. Une, c'est celle où il y a la Vierge. Je pense que cela me portera bonheur. Je pense que vous avez dû recevoir mes cartes. Cela vous indiquait le pays où je suis maintenant, bien loin de Belfort. Je ne sais si j'aurai le bonheur de le revoir. J'en ai toujours l'espérance. Ces temps passés, j'ai reçu une lettre de l'oncle de Pontarlier. Il m'a envoyé 5 francs. Je me suis empressé de le remercier. Vous devez savoir que Jeanne est à Bourg, ces temps passés. Elle m'a écrit. Elle me disait qu'elle avait été chez nous avant de partir et que vous n'avez pas voulu la recevoir. Pour moi, ça ne me regarde pas. J'ai assez d'ouvrages pour moi. Elle me disait aussi que son prétendu était parti. Elle en a déjà eu beaucoup de ses prétendus. Et puis, elle ne se marie pas souvent. Elle ferait bien mieux. Quant à Virginie, je n'ai toujours pas de nouvelles. Je ne sais ce qu'elle fait. Je vais écrire aussi à Léon puisque j'ai le temps. Vous m'excuserez de l'écriture car j'ai froid aux mains. Vous donnerez bien le bonjour à tous les gens du pays. Vous embrasserez bien la petite famille pour moi, surtout mon grand René. Je voudrais être à sa place. Je serai heureux. Je termine ma lettre en vous embrassant de tout cœur et d'amitié. Votre fils, qui vous aime pour la vie, P. Monnier. Lettre écrite la veille de sa mort par Prosper Faduil, sous-lieutenant au 29e bataillon de chasseurs à pied. Maman chérie, je suis redescendu hier des premières lignes où nous sommes restés 5 jours devant le fort de Vaux. Le bataillon a été superbe de courage et pour ma part je n'ai pas une égratignure. Ce soir, 2 compagnies choisies remontent pour attaquer par surprise. J'ai été choisi pour mener aussi la danse avec les meilleurs chasseurs du bataillon. L'affaire promet d'être chaude, mais intéressante. C'est pourquoi je suis fier et content d'en être. Néanmoins, je laisse cette lettre à un de mes camarades, le lieutenant Guillaume, qui te la ferait parvenir si je ne redescendais pas. Maman chérie, j'ai beaucoup d'espoir et je compte que mon étoile ne pâlira pas ce soir. Mais si je tombe, soyez certain que j'aurai fait tout mon devoir de chasseur. Si au dernier moment, quelques minutes me restent encore pour vous, je t'enverrai mes plus doux baisers. L'image de ma maman sera là pour me consoler, celle de mon père et de mes frères chéris pour me donner la force de mourir le sourire aux lèvres, trop heureux de tomber pour vous. Dans un long baiser, à tous, je vous dirai adieu. Prosper Faduil. P.S. Ma chère maman, il ne faut pas pleurer, ce serait mal. Il faut être courageuse, pour mon papa et pour mes frères. Lettre écrite par Robert Camus, sergent au 408e d'infanterie, blessé mortellement le 3 octobre 1918. 27 août 1918. Cher papa, dans ton mot du 15, tu me disais que Marcel Blondin était en permission et qu'il portait le galon de sergent automobiliste. Tant mieux pour lui, c'est un poste de toute sécurité. Je conviens qu'il a une belle chance. Quant à moi, j'estime que je suis à la place qui convient à mon âge et à ma situation. D'ailleurs, je n'ai nullement le pouvoir d'en changer. J'ai aussi comme une fierté de la souffrance qui le plus souvent est la compagne de l'homme sur la terre. Et j'ai confiance dans le retour pour vous revoir et vous aimer. Trouve ma chance égale à toute autre puisque je suis demeuré intact au milieu des plus fortes tempêtes. Ici, le secteur continue d'être tranquille. L'avant-dernière nuit, j'ai eu un poste inquiété par une patrouille, mais quelques grenades ont suffi pour la mettre en fuite. Le temps a changé quelque peu. Nous avons eu deux orages. Les nuits se font déjà fraîches, surtout dans la vallée qui s'emplit de brouillard. Je suis heureux que vous ayez terminé la moisson par un temps favorable. Je vous embrasse de tout mon cœur. Ton fils dévoué, Robert. Lettre écrite à sa femme par Louis de Roche du 27e régiment d'infanterie, tué à Dolvig le 20 août 1914. 17 août 1914. J'ai reçu hier au petit jour le baptême du feu. Ce fut gentil tout plein. À la première décharge, un shrapnel fusant sur mon escouade accroupie traversa d'une balle le sac de mon camarade de gauche, déchira ma bretelle de fusil, rasa la figure du caporal et d'un dernier plomb, le plus tragique, traversa le bras de mon vieux Fèvre. Pas une minute d'émotion. Nous sommes restés jusqu'à 3 heures de l'après-midi sous le feu de ces cochons-là. Qu'ils tirent mal et quelle inutile gabegie d'une marchandise qui coûte si cher. Ma compagnie, qui est des plus éprouvées, vient de se retirer en arrière et en réserve de façon à prendre un repos bien gagné. Tu ne saurais croire, mon petit ange, combien la proximité du danger agit salutairement sur l'âme de ton gosse. Je vis en une communion continuelle avec Dieu, dans lequel ma confiance augmente sans cesse. Ainsi, je lui dois mon calme qui n'est pas une des moindres assurances contre le danger. Je lui ai promis, ainsi qu'à la Vierge des temps, que, si nous nous retrouvons bientôt heureux chaque année, nos enfants et nous feraient le pèlerinage de Velin. J'ai enterré ce matin les deux morts de ma compagnie pour lesquels j'ai dressé une croix et récité une prière. C'est à toi, mon ami, que je dois ce petit courage. Adieu, mon petit gosse, je te quitte. Continue d'être l'ange des deux foyers que j'ai quittés pour un temps. Il suffit que j'emporte ton cœur pour que ni la joie ni l'espoir ne puissent s'envoler de dessous ma capote. Je viens de revoir avec joie mon ancien commandant du 10e. Il m'a causé affectueusement, il m'a annoncé que la victoire se dessine sur tous les fronts. Louis. Lettre écrite par le conducteur André Chapelle de la SS 104. Dire que nous croyons avoir tout vu dans l'Artois. Cela me paraît peu de choses auprès de la vie que nous allons mener ici. Boue, rafale de grésil, froid, pluie qui cingle, vent glacial, brouillard, les marmites par-dessus tout cela. Et toujours en pleine nuit, sans aucune lanterne, naturellement. Il y a bien les fusées qui illuminent à Giorno, mais c'est plutôt une gêne qu'une aide. Le meilleur, c'est encore Astarté, reine du ciel. Malheureusement, c'est 8 ou 10 jours par mois. Aussi, nous continuons à suivre des yeux le calendrier, comme dit Bujon. Je te prie de croire que nous sommes au courant des phases de la lune. Quant aux routes défoncées, pleines de trous, ça ne change pas. Première vitesse est du 5 à l'heure. Souvent, quand on revient, on ne peut plus passer. Un 210 a coupé le chemin. Hier, avec un camarade, nous étions ainsi de chaque côté d'un entonnoir. Que faire? Et moi, j'avais des blessés. Il a fallu chercher un détour. Cela a duré 2 heures. Pauvre malheureux blessé avec ce froid. Mais tu connais tout cela, et l'immobilité qui vous glace, et le morceau de viande gelée avec un quignon de pain, et les nuits dans les postes avec le tintamarre du canon, et les quelques heures de sommeil dans quelques coins, enroulés dans une couverture mouillée. Je me demande comment nous résistons. Nuit de front, les fusées, les cris lointains, les fusillades subites, l'inquiétude, la fièvre, les plaintes des blessés, et puis ces minutes d'exaltation de tout l'être où l'on accepte. Car nous autres, comment flancherions-nous quand nous voyons tous ces pauvres camarades que nous transportons, dont nous tenons la vie entre nos mains, et qu'un coup de volant heureux peut sauver en les faisant arriver 5 minutes plus tôt sur la table d'opération. Mais je crois bien que je vais me vanter. À toi. Et puis, je suis de ton avis, est-ce que cela existe auprès des fantassins? Eux seuls, et voilà tout. Et dire que Paris ne se rendra jamais compte. Moi, quand je les vois, je me dégoûte et je m'injuris. Enfin, quoi faire? Tu as le bonjour de Charles Brémond, etc. Ainsi se termine cette émission de notre série autour du thème de la guerre 1914-1918. Elle était consacrée à des dernières lettres de combattants de 14-18, essentiellement issues d'un ouvrage de 1921. Ces lettres présentées dans notre adaptation radiophonique. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre aussi des illustrations musicales. Tout d'abord, tout au long de l'émission, de brefs extraits instrumentaux de la chanson « Tu n'en reviendras pas », le texte de Louis Aragon mis en musique par Léo Ferré. Puis, c'était la chanson « Les lettres » de Maxime Le Forestier, qu'il interprétait lui-même. Puis, « Tichot » sur les paroles d'Eugène Bizot et la musique de François Guernier interprétait « Le chant d'honneur ». Ensuite, c'est Éric Robrèche qui, sur ses paroles et musique, interprétait La Pierre, puis Jacques Ivar, sur sa musique et sur les paroles de Émile Verhaeren, interprétait Au jeune soldat mort. Nous tenons à remercier Henri Jacquin, qui a bien voulu nous communiquer la lettre de Paul Meunier, un document complètement inédit à ce jour. Comme je vous le disais en début d'émission, ces lettres sont souvent empreintes de conditionnement moral au patriotisme, voire, comme certaines, de religiosité. Et pourtant, elles restent imprégnées de tout le poids de l'humain qui pèse sur ces individus qui souffrent et qui ont peur et qui essaient de trouver une rationalisation dans ce devoir de patriotisme à leur comportement de fuite en avant, qui est peut-être aussi bien l'expression d'un profond désespoir qui les pousse à vouloir en finir, quel qu'en soit le prix, fût-ce la mort, puisqu'ils n'ont pas d'autre possibilité d'échapper à l'étreinte. C'est aussi sans doute pour cela que leur rêve le plus secret est d'être blessé pour être délivré, voire fait prisonnier, ce qui équivaut alors paradoxalement à une véritable libération. Bonsoir. Thank you.